J'ai l'impression que mon rôle dans tout ça, ça va être de moi-même créer des œuvres qui vont véhiculer des pensées féministes dans lesquelles d'autres femmes vont pouvoir se reconnaître et ça va pouvoir créer de nouveau du lien entre nous et créer quelque chose, une boucle vertueuse dans ce sens.
L'artiste rennaise qu'on a la chance d'accueillir aujourd'hui a plus d'une corde à son arc. Chanteuse pour l'orchestre de variété Génération, elle présente aussi un beau parcours en chant lyrique qui lui donne l'occasion de monter des opéras ambitieux, comme cette année avec Roméo et Juliette. On l'a vu aux côtés de la chanteuse pop rennaise Jeanne Bonjour ou encore Blue Carmen, autre musicienne de talent. Elle fait aussi partie du trio de femmes Vénératio qui se produira ce vendredi au Zéphyr à Château-Giron pour un hommage à la chanson française. Bienvenue à elle et à vous dans Musicienne.
Si je reprends un peu la thématique de l'émission qui parle voilà, de comment être à l'aise en tant que femme dans la musique ou dans l'art en général, je pense que du coup la question que tu me poses, elle est aussi comment est-ce que je vais me sentir à l'aise avec des collaborateurs, hommes ou femmes ? Comment est-ce que je vais choisir, me sentir à l'aise ou pas ? Et je dirais que la plupart des projets dans lesquels je suis aujourd'hui, c'est pas tant des projets où moi j'ai démarché pour aller dedans, c'est plutôt des projets où on est venu me chercher parce que j'ai un profil un peu pluridisciplinaire qui peut intéresser. Et par exemple, le fait que je fasse aussi chant lyrique et chant de musique actuelle, c'est un truc qui peut être assez insolite en province en tous les cas. Et c'est ce qui a intéressé Jeanne Bonjour. Donc, comme elle s'est intéressée à la singularité de mon profil, moi, je me suis sentie prise en considération, valorisée. Donc, ça m'a donné envie de la suivre là-dedans. L'autre chose qui peut aussi faire que je travaille avec des personnes, ça va être le fait que je mélange donc chant et danse. Et c'est ce qui a intéressé l'orchestre Génération avec lequel je travaille. Parce qu'en fait, ils font des concerts qui sont un peu à l'américaine, quoi, où il va y avoir beaucoup de visuels en plus de la musique. Et forcément, une chanteuse qui travaille aussi sur son image, son corps, sa manière de bouger au plateau, ça va les intéresser beaucoup plus évidemment qu'une personne qui aura travaillé que sa voix. Donc c'est ça qui m'a amenée à travailler avec eux. Et je pense que je me pose d'abord la question artistique avant de me poser la question peut-être humaine. Alors des fois ça me joue des tours parce que je vais accepter les choses parce que artistiquement je me dis oui, ok, les gens prennent en considération mes compétences et en fait je vais parfois me retrouver avec des gens qui n'ont rien à voir avec moi, qui vont être complètement d'un autre milieu ou qui vont avoir une vision de ce qu'ils font qui est hyper étonnante. Mais comme j'ai un côté un peu caméléon et très curieuse du point de vue sociologique, en fait ça va m'amuser de me mettre un peu en difficulté et de me retrouver avec des gens qui n'ont rien à voir avec moi. Et d'expérimenter, de voir comment je peux m'adapter à l'environnement qu'il me propose, l'environnement artistique, l'environnement humain, tout ça. Et donc globalement, je dirais que je travaille avec les gens qui viennent me chercher. Et les rares projets dont j'ai été à l'initiative, ça a été des projets que j'ai écrits, où en fait, ça va être moi qui va faire la démarche d'auditionner, par exemple, des acteurs ou des interprètes ou des musiciens. Et à chaque fois que c'est des projets qui sont à mon initiative, je vais toujours avoir le même collaborateur, en fait, principal, qui est mon cousin, qui s'appelle Jérôme Degrotte, et avec qui je collabore depuis maintenant quasiment 10 ans, parce qu'en fait, je lui demande d'être regard extérieur sur quasiment tout ce que j'entreprends à titre personnel dans l'art. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions are an echo in so much space. There, without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Does that make me crazy? Please. j'ai pu être mise en difficulté au fil d'un projet où je sentais qu'en fait, humainement, il y avait des trop grandes différences peut-être de perception de la vie, de milieu ou de manière de prendre l'art. Et alors, sans donner de nom, peut-être il faudrait que je donne un exemple. C'est vrai que j'ai eu une expérience un peu compliquée avec une collègue chanteuse. Ça me fait rire parce qu'en fait, ça va rejoindre peut-être une question que tu as abordée dans d'autres épisodes de ce que j'ai pu entendre sur le podcast. Il y avait certaines filles qui racontaient si elles avaient eu des remarques sur leur féminité ou des choses comme ça dans un projet. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, moi, j'ai pas eu tant que ça des mauvaises expériences avec des collègues hommes qui m'auraient fait des remarques, mais plutôt avec une collègue femme, là, en l'occurrence, qui a eu une attitude envers moi que je ne m'explique toujours pas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le premier jour où on s'est mis à travailler ensemble, on a fait notre premier concert ensemble, on s'est rencontrés le jour même. Et c'était un show assez exigeant. Donc déjà, moi, j'étais contente en terminant le spectacle d'être arrivée au bout. Et en fait, en arrivant dans les loges après, elle est venue me voir. Et au lieu de, je sais pas, m'encourager ou me dire que c'était bien, ou parce qu'en fait, elle était là dans le projet avant moi. Donc je m'attendais, je sais pas, à un mot sympa. Et en fait, la première chose qu'elle m'a dit, c'est « Écoute, Ariane, il y a des choses qu'il faut que tu apprennes parce qu'en fait, toi, tu viens de débarquer dans ce métier et il y a plein de choses que tu sais pas. Et dans ta manière d'être sur scène, il y a vraiment des problèmes, en fait, qu'il faudrait régler, quoi. » Donc, j'étais un peu surprise. Et je me suis dit « Bon, ça peut être un apprentissage constructif. Allons-y, entamons cette discussion. » Et elle me dit, alors pour commencer, tes chaussures, ça va pas du tout. Je me suis dit, mes chaussures, qu'est-ce qu'elles ont mes chaussures? Et elle me dit, bah voilà, elles sont beaucoup trop strictes en fait. Le talon, il est pas assez haut, c'est pas assez féminin. Donc en fait, il faudrait que t'en achètes d'autres. Et je me suis dit, mais c'est pas la première chose que tu dis à une collègue que tu viens d'accueillir dans un projet. Donc j'étais un petit peu refroidie quand elle m'a dit ça, et puis elle enchaîne, elle me dit « Puis d'ailleurs, ton maquillage, il est pas assez voyant, il est beaucoup trop discret, ça va pas, le public peut pas assez le voir, et puis aussi ta manière de danser sur scène, elle est pas assez féminine, parce que il y a des moments, je te vois un peu voûtée sur ton micro, alors qu'une posture de femme, ça peut pas être ça, tu comprends, une femme au plateau, il faut qu'elle se tienne bien cambrée, avec la poitrine en avant, parce que c'est ça que veut le public, et toi, ce que tu leur donnes, c'est pas du tout ce qu'ils veulent. » Donc, énorme claque d'entendre ça. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut que je lui explique que là... Enfin, elle est sur une pente qui va pas. Donc je lui dis, écoute, je crois pas que j'ai été engagée sur ce projet pour mes chaussures, par exemple. Donc si le patron, lui, ça le dérangeait que je sois habillée comme ça, il viendrait me le dire. Mais vu qu'il m'a rien dit, je pense que c'est OK. Et elle aurait pu laisser tomber, mais elle ne l'a pas fait. Et au concert d'après, elle est revenue me voir pour me dire, écoute, Ariane, j'ai montré une photo de tes chaussures au patron. Et en fait, il est d'accord pour dire qu'elles sont pas bien et qu'elles sont pas assez sexy. Donc, il va vraiment falloir que t'en achètes d'autres. Voilà. Donc, j'étais atterrée et c'est quelque chose qui a continué après. Et en tous les cas, ce que prouve cette anecdote, pour en revenir à la thématique de l'émission, c'est que, en fait, il n'y a pas que les hommes qui vont être susceptibles d'opérer une surveillance sur les corps et sur les vêtements des femmes dans l'art, et que finalement les femmes entre elles peuvent tout à fait aussi opérer ce contrôle et s'empêcher d'évoluer vers autre chose, ce qui est assez triste en fait comme constat. I'm bulletproofing, know what I'm doing. The way we're moving, like introducing us to a new thing. I wanna save it for later, the taste of flavor. Cause I'm a taker, cause I'm a giver. It's only nature, I live for danger. Oh, did you got skin to skin? Oh my god, did you stop? Je dirais que les moments où je ressens le plus de sororité s'exprimer, c'est peut-être bizarrement en dehors du concret. Ça va peut-être être plus sur les réseaux sociaux, quand on va aller féliciter d'autres artistes qu'on a vus, qu'on apprécie, qu'on les soutient. Personnellement, je pense que moi, ce qui m'a le plus apporté sur ma vision du monde et qui a fait évoluer ma perception des genres, c'était des œuvres très souvent écrites ou produites par des femmes. Et du coup, je consomme moi-même voilà, beaucoup de podcasts, de livres, de concerts, de spectacles. Je dis consommer, mais au bon sens du terme, c'est-à-dire je m'en abreuve et ça me nourrit. Et en fait, j'ai l'impression, en achetant par exemple une place de concert, une place de spectacle, d'un spectacle qui met en scène des femmes, en fait, je les soutiens. Et si après, je vais les voir à la fin du spectacle, qu'on en discute, ça crée une forme de sororité qui s'installe partout dans le milieu artistique. Et je trouve ça hyper beau. Et j'ai l'impression que peut-être moi, ma place, mon rôle dans tout ça, ça va être de moi-même créer des œuvres qui vont véhiculer des pensées féministes dans lesquelles d'autres femmes vont pouvoir se reconnaître et ça va pouvoir créer de nouveau du lien entre nous et créer quelque chose, une boucle vertueuse dans ce sens. Je repense, par exemple, avec Jeanne Bonjour, on a fait des concerts, on n'était que toutes les deux. Par exemple, le concert qu'on a fait au Zénith de Lille, en première partie de Benjamin Biolay, on n'était que toutes les deux sur ce projet. Et en fait, le fait d'être que deux jeunes femmes à l'autre bout de la France, dans un endroit immense, avec quelque chose de très intimidant, je pense qu'instinctivement, on a eu envie de se soutenir et de se sentir dans quelque chose de safe à deux. Et par exemple, à la fin du concert de Benjamin, il nous a invités dans sa loge pour qu'on discute. Et quelque part, je pense que si Jeanne avait été toute seule, elle y serait peut-être pas allée, tu vois. Et que le fait qu'on ait été deux, du coup, on se sentait soutenus, on se sentait en sécurité. Donc, il était là à nous inviter, à nous offrir à boire, à manger. C'était assez étrange parce qu'on essayait de paraître familière avec un mec super connu, beaucoup plus impressionnant que nous, de petites jeunes qui débarquent de leur province et tout. Mais le fait qu'on soit deux, on sentait que c'était OK, qu'il allait rien nous arriver, qu'on pouvait être dans cette loge avec ce mec beaucoup plus âgé que nous. Parce qu'en fait, vu qu'on était deux, on allait pouvoir baquer le moindre incident qui pouvait peut-être se produire ou pas du tout. Parce qu'en fait, il y a plein de cas où les choses se passent très bien. Mais là, on n'avait pas besoin d'être sur nos gardes parce qu'on était deux et qu'on se soutenait. Ah, c'est vrai qu'à ce titre, j'ai une autre expérience à raconter. Mais je vais encore être un petit peu hors sujet, c'est pas grave. J'ai une expérience où là, pour le coup, j'ai espéré qu'il y aurait du soutien. Je pensais qu'il y en aurait et en fait, il n'y en a pas eu. Et ça a été un grand étonnement et une grande déception. C'était un projet sur lequel je travaillais et où en fait, le directeur artistique... Donc, c'était pas moi qui le dirigeais, ce projet-là. Et j'étais plutôt en regard extérieur. Mais j'étais quand même très présente sur la prod, et en fait, le directeur artistique avait un comportement de plus en plus malsain envers ses interprètes au fur et à mesure du projet. Et il avait, par exemple, une manière de s'adresser à ces interprètes qui moi me paraissaient complètement déplacés, ou par exemple il arrivait le matin au plateau en disant salut, comment ça va mes puputes, enfin genre des surnoms absurdes comme ça qui étaient étranges parce qu'on n'était pas si familiers que ça les uns avec les autres, donc ça sortait un peu de nulle part. Et au milieu d'une répétition, je me souviens qu'il a dit « Comment ça, vous voulez pas vous déshabiller au plateau ? Mais enfin, mais tout le monde fait ça de nos jours, dans le théâtre. » Enfin, voilà, des phrases comme ça, qui peuvent être tout à fait prises sur le ton de l'humour et qui, je pense, il y a quelques années, passaient tout le temps sur le ton de l'humour et qui étaient monnaie courante, en fait. Et maintenant, peut-être que plus de monde s'interroge là-dessus. Et en fait, il se trouve que moi, sur ce projet-là, mon rôle était entre autres de rédiger un texte sur le processus de création du projet. Et en fait, il fallait que j'explique en fait les conditions de travail, les méthodes, que je cite aussi le vocabulaire du directeur de projet. Donc forcément, j'ai dû un petit peu expliquer l'atmosphère que moi je ressentais sur le truc. Et donc, je l'ai décrit, et tout en restant assez neutre. Voilà, je ne voulais pas être dans la critique frontale. Je voulais juste poser la question de est-ce que les interprètes se sont sentis à leur aise pour s'exprimer sur ce projet artistiquement. Voilà, je soulevais la question. Et en fait, au moment de vouloir publier ce texte, le directeur artistique a pas du tout accepté que je le publie, et il m'a traité de menteuse, d'arriviste et d'incompétente, ce que j'ai assez mal vécu. Et encore, bon, si ça concernait que moi, peut-être mon choc se serait arrêté là, mais je crois que ce qui m'a le plus déçue, c'est que je n'ai obtenu aucun soutien de la part des interprètes du projet, qui en fait étaient les victimes de ce comportement. Et qui aurait pu tout à fait vouloir souligner ce que j'avais écrit dans mon texte et s'en emparer, en fait. Et au contraire, pourtant, ils ont eu accès à ce texte, et pas l'un d'eux ne m'a dit « Moi, je sais que ce que tu as écrit, c'est vrai, et d'ailleurs, c'est inadmissible, d'ailleurs, il faudrait faire quelque chose. » Et en fait, j'ai été livrée à moi-même là-dedans, et j'ai trouvé ça hyper dommage, inquiétant, et je me suis demandé pourquoi est-ce que ces personnes ne réagissaient pas. Est-ce qu'elles avaient peur pour leur carrière? Est-ce qu'elles avaient peur de ne pas être réengagées derrière? Est-ce que... Il y a forcément des enjeux de pouvoir derrière tout ça. Donc, voilà, une expérience que j'ai trouvée assez questionnante sur la question de ces comportements. Jenny made a mind up at 22. To get herself a husband, what a thing to do. She got herself a doll, the penis, satins and furs. And she got herself a husband, but he wasn't hers. Poor Jenny, bright as a penny, her equal would be hard to find. Deserved a bed of roses, but history discloses that she would make up her mind. Jenny made her mind up at 51. She would write memoirs before she was done. The very day the book was published, history relates. There were wives who shot their husbands in some 33 states. Poor Jenny, bright as a penny, her equal would be hard to find. She could give golden spades to many of the ladies, but she would. Alors, je pense que j'ai eu des lectures qui ont été des révélations. Et la première, je pense que c'était « Reflet dans un œil d'homme » de Nancy Houston. Et dans ce livre qui est un essai, il y avait beaucoup de références à une femme autrice qui s'appelle Nelly Arcand. Et donc derrière, j'ai été lire le roman le plus célèbre de Nelly Arcand qui s'appelle « Putain ». Et en fait, c'est assez drôle parce que juste cette semaine, je suis tombée sur une interview de Pomme qui dit avoir lu ce roman et que pour elle aussi, ça a été une claque. Parce qu'en fait, c'est le récit d'une, d'une étudiante en littérature qui en fait se prostitue pour payer ses études. Et en fait, ça a l'air de rien, mais par la puissance de son écriture et de son analyse de ce qu'elle vit, Nelly Arcan en fait arrive à développer une pensée féministe complètement en avance sur son temps, parce qu'en fait elle a écrit ça il y a déjà quelques années, et en fait elle s'est suicidée à la trentaine parce qu'elle supportait pas justement la posture dans laquelle elle se sentait enfermée en tant que femme, parce qu'en fait elle ressentait une pression constante sur son image. Elle avait l'impression que quand elle allait vieillir, elle serait plus valable, qu'en fait elle n'aurait plus sa place sur Terre, qu'elle ne pouvait être appréciée et exister que si elle était parfaite physiquement. Et en fait elle était dans une spirale comme ça de questionnement, de comparaison aux autres femmes, à toujours avoir peur d'être détrônée, de pas être la plus belle, la plus aimée. Et alors dans le roman c'est pas une artiste, mais en fait ça s'approche très facilement d'un questionnement qu'on peut avoir en tant qu'artiste femme, parce qu'on est hyper exposée et qu'on est sans cesse comparée. Il y a des classements, il y a la meilleure artiste, celle qui a vendu le plus de disques, celle qui a fait le top à la télé dans les clips, ou qui vend le plus de livres. Il y a ce truc de compétition en fait qui est placé sur le monde de l'art comme le sport. Parce qu'en fait, ça fait vendre, parce que ça, je ne sais pas, c'est tout un système de société qui est basé là-dessus. Et enfin, voilà, tout ça pour revenir au fait que, voilà, il y a eu ces lectures-là qui, pour moi, ont été des espèces de révélations. Et depuis, je crois que je lis presque exclusivement des autrices femmes. Mais pas spécialement pour exclure les hommes du tout, mais juste parce que j'ai l'impression de mieux me reconnaître en fait dans les écrits de ces femmes-là, et que je me dis mais on rencontre les mêmes problèmes, et ça me fait réfléchir et ça me fait me sentir moins seule surtout, parce que c'est hyper important de se sentir moins vulnérable, et ça aide à ça. J'ai une amie principalement avec qui je parle énormément de cette question, et donc c'est la chanteuse de Blue Carmen justement, avec qui j'ai fait le clip de Saut dans l'étrange. Et on parle énormément de cette question de comment on se sent en tant que femme vis-à-vis des autres, vis-à-vis du monde de l'art, vis-à-vis des hommes, vis-à-vis des autres femmes. Et nous-mêmes, entre nous, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui nous empêchaient de bien vivre notre amitié parce qu'on était deux femmes. Et c'était fou, en fait, de se rendre compte de ça. Et donc on a énormément décortiqué le problème, analysé les choses pendant des semaines pour ne pas se détruire en fait, pas détruire notre amitié à cause de schémas sociétaux qui nous bouffent en fait. Et c'était, je crois, l'expérience la plus enrichissante que j'ai pu avoir dans un dialogue avec une femme. Et vraiment, je la remercie pour sa patience et la minutie avec laquelle elle a accepté d'écouter mon discours et mes remarques et mes ressentis, parce que je trouve qu'aujourd'hui on est arrivé à, voilà, à un dialogue totalement ouvert, et on est consciente en fait totalement que être deux femmes artistes, ça nous place dans une situation hyper délicate, mais par le dialogue on est capable d'en tirer le meilleur. Je dirais que elle comme moi, on s'est mise une grande pression sur notre réussite, à la fois artistique et sur l'image qu'on voulait avoir de nous-mêmes. Dans son cas à elle, je pense que c'était lié à ses parents qui l'ont toujours poussée à être la meilleure dans beaucoup de choses, où du coup elle s'est beaucoup auto-flagellée dès qu'elle travaillait pas assez, qu'elle n'arrivait pas à être la meilleure et tout. Et pour mon cas à moi, je pense que c'est un grand manque de confiance en moi-même qui a fait que j'étais terrorisée à l'idée de ne pas être assez aimée, de ne pas être assez soutenue, de ne pas être assez bien. Et en fait, nos deux situations, pourtant assez différentes, risquaient de créer quelque chose d'assez toxique, en fait, parce que elle se débattait avec son besoin de se sentir réussir, et moi avec mon besoin de me sentir suffisamment aimée. Et je pense que beaucoup de femmes sont dans cette situation, en fait, soit l'une, soit l'autre, parce qu'on a tous des histoires familiales qui font qu'on a des manques, qu'on essaye de combler d'une certaine façon. Et chez les femmes, ça passe souvent par l'apparence. Et encore une fois, quand on fait de la scène, l'apparence, c'est un pourcentage énorme, en fait, de ce qui nous prend la tête. Ce qui est probablement moins le cas pour les hommes, d'ailleurs, hein. J'entendais d'autres artistes en parler dans leurs épisodes de ton podcast, qui disaient les mecs, ils peuvent venir habiller comme ils veulent sur scène, on va juste écouter comment ils jouent. Là où une femme, on va tout de suite la regarder de haut en bas, voir si elle a bien mis les vêtements qu'il fallait, est-ce qu'elle est jolie ou pas, parce que si elle n'est pas jolie, on n'aura peut-être pas envie de l'écouter. Voilà, donc on a cette pression-là quand même sur les épaules. Et je pense que quand on accepte ça, enfin c'est-à-dire quand on l'accepte, quand on le comprend, quand on arrive à en parler, c'est le début d'un dialogue et le début d'une espèce de décharge émotionnelle. On se dit « Ok, d'accord, c'est pas juste moi qui suis étrange, c'est le système qui me pousse à devenir folle vis-à-vis de ces questions. » Et on était deux à se rendre compte de ce problème, en fait. Je pense que notre but avant tout, c'était de sauver notre amitié. Donc... bien sûr que la sororité était au centre. Le but, c'était qu'on puisse continuer à être amis et continuer à travailler ensemble en tant qu'artiste aussi. Donc, oui, c'était deux femmes qui veulent se sauver individuellement et collectivement.
Si toi, tu devais être une aide, justement, mais pour la personne que tu étais il y a quelques années, cette collégienne qui a tellement morflé, comme tu le disais tout à l'heure, tu pourrais te retrouver là, voilà, à ma place, là, c'est elle sur ce canapé. Qu'est-ce que tu lui dirais ?
C'est hyper intéressant comme question. Qu'est-ce que je dirais à l'ado que j'étais ? En vérité, je crois que je serais hyper contente de pouvoir remonter le temps et pouvoir m'adresser à elle pour la rassurer, en fait. Parce que la vie me semblait être quelque chose de terrifiant à l'époque. Et j'ai beaucoup relativisé sur ça depuis. Et je pense que je lui dirais... tu n'es pas condamnée à n'être qu'un corps. Sous prétexte que tu es une femme, tu n'es pas réduite à ton enveloppe corporelle, à ton esthétique, et tu pourras encore exister, tu auras encore ta place, par exemple, dans le monde artistique après 25 ans, même si tu es moins lisse du point de vue plastique. Tu pourras continuer de développer ta voix comme un homme, tu pourras continuer d'écrire comme les hommes, tu pourras continuer de t'exprimer et pendant des années. Donc surtout, te laisse pas influencer et laisse personne remettre en question ta légitimité, ta capacité, tes compétences, parce que tu vaux le coup en tant qu'être humain et pas juste en tant qu'image.
Poupée rosée, marron glacé, je parade au dessert. Ne vivant que pour plaire à ton regard expert, lascive et sans sensation, paralysante perfection.
Merci à Ariane Tissier pour ses belles paroles et ses nombreux projets qui l'amèneront, à n'en pas douter, vers un avenir radieux. On lui souhaite un long chemin fait de belles surprises et de délicieuses rencontres. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Musicienne.